Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
Un peu plus de 11h sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Merci aussi de nous rejoindre si c'est le cas. On est ensemble jusqu'à midi pour suivre l'évolution des marchés financiers en cette journée très particulière. C'est une journée de chute des principaux indices, notamment du CAC 40 sur la résurgence ou plutôt... Il était déjà là, hein, ce variant, mais on en parle encore plus aujourd'hui de ce variant, nouveau variant sud-africain du Covid-19 qui met toute l'Europe en alerte. Hein, et on le verra tout à l'heure dans le flash que l'Allemagne, l'Italie interdisent l'accès sur leur territoire de voyageurs en provenance de toute l'Afrique australe. On en parle avec Michael Jacobi qui est en direct avec nous. Bonjour Michael.
Bonjour.
Responsable du trading chez Odo BHF, ce CAC 40 qui chute de 3,44% sous les 7000 points à 6832, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes inquiet?
Alors, je pense que le marché a raison de corriger face à un nouveau variant. Donc, on n'avait pas encore vraiment tous les tenants et aboutissants. Hein. Effectivement, on entend qu'il serait plus contagieux. La question se pose sur la résistance ou non au vaccin. Et c'est aujourd'hui ce qui, probablement, au plus bas de la journée, où on a quasiment atteint les moins 5% à ces 6736 sur le CAC, voulait en tous les cas insinuer. Depuis, on a légèrement rebondi. On est dans une réaction quand même assez mesurée, quand bien même brutale. Hein. On est à moins 3,36 avec un volume assez impressionnant. Alors il y a deux choses. On est d'une part dans des niveaux assez records hein, sur les différents niveaux d'indices boursiers et des sociétés. Donc celles qui aujourd'hui trinquent énormément sont forcément celles qui ont le plus monté et qui sont les plus exposées au commerce international. Alors on a bien évidemment Airbus, on a l'immobilier, on a Unibail, il y a toutes les deux autour de moins 9, moins 8%. Bien évidemment, dans le même secteur, on a Safran, on a la construction, on a Vinci qui est également à moins 0,60%. On a les bancaires également qui se font assez attaquer à moins 5%. Et les peu de valeurs qui sont plutôt dans le vert sont des biotech ou des médicales qui effectivement sont autour du Covid, soit dans le test, soit dans les solutions thérapeutique. Donc on est effectivement dans une réaction à chaud de cette nouvelle. Je pense que ça va prendre quelques temps à en connaître plus de détails sur ce nouveau variant venant d'Afrique du Sud. Et pour l'instant, le marché réagit, à mon sens, de façon encore assez mesurée.
Très bien, bah écoutez, on va suivre tout ça tout au long de la journée. Merci beaucoup pour cette analyse, Michael Jacobi, directeur responsable plutôt du trading chez Odo BHF.
BFM Business, BFM Patrimoine, le face-à-face.
Et ce face-à-face, c'est avec Daniel Gerino qui est en plateau avec nous.
Bonjour Vincent.
Président de Carlton Sélection, le temps qu'Emmanuel Lechypre nous rejoigne, éditorialiste bien connu sur BFM Business et d'autres médias d'ailleurs de notre groupe. On va parler avec vous deux des politiques monétaires, des banques centrales, des perspectives d'inflation, de l'euro qui flanche. Et bien sûr des marchés, parce que c'est l'actualité la plus brûlante, dans la tourmente hein, avec ce nouveau variant sud-africain. Je commence avec vous, Daniel. Est-ce qu'on n'est pas à un tournant là sur les marchés qui était plutôt serein jusqu'ici de la nouvelle vague qui commençait à arriver sur le continent européen?
Alors on a été serein, oui, pendant quelques mois, mais vous voyez qu'en l'espace d'une nuit, on a effacé les performances d'un mois sur le CAC.
Déjà, on est sous les 7000 points hein, pour le CAC 40, largement. Hein.
Tout à fait. Alors, évidemment, ça provoque toute une série de questions. Vous voyez, le secteur aéronautique, le secteur hôtelier souffre terriblement, le secteur du luxe, tout a été pris dans une vague, dans une tornade, puisqu'on a l'impression de faire un retour en arrière sur le deuxième semestre, voire le premier semestre 2020. Alors, Évidemment, ça, c'est un virus qui est quand même très dangereux. C'est le B1.1529, son petit nom de code.
Il va falloir apprendre à le retenir.
Voilà, il va falloir apprendre à le retenir, qui est une combinaison de plusieurs mutations de virus très difficile à traiter. Donc, les vaccins actuels, on a des doutes sur leur capacité à pouvoir faire face. Bon, le Botswana est contaminé, l'Afrique du Sud est contaminée. Il y a un cas qui est arrivé à Hong Kong, mais il a été immédiatement pris en charge. Donc je pense qu'il n'y aura pas de ramifications. Bon, tout ça crée un climat anxiogène sur les marchés. Alors, comme les marchés étaient sur des niveaux extrêmement hauts, évidemment, il y a une reprise en ordre, dispersé d'ailleurs sur les valeurs du CAC 40, mais sur d'autres valeurs aussi, puisqu'on a vu que le marché asiatique a terriblement corrigé.
Ça a commencé comme ça.
Aujourd'hui, que vont faire les banques centrales? Alors, on a eu des phénomènes assez surprenants, parce que finalement, on a eu, à la fin de l'année 2020, on voyait l'inflation qui commençait à repartir.
On va en parler plus en détail, hein, voilà, de l'inflation.
De l'inflation. Alors, les banquiers centraux, face à cette menace, évidemment, c'était dit, il va falloir faire quelque chose. La première étape, c'est le tapering. La deuxième étape, c'est la remontée des taux. Et la troisième étape, qui est une étape extrêmement dangereuse, c'est la réduction de la taille du bilan.
Bon, ça, c'était le scénario avant ce qui est en train de se passer.
Voilà. Alors, les États-Unis ont déjà donné là, en disant, bon, on met en place ce tapering. Très bien. Là, Goldman Sachs dit aujourd'hui, nous avons l'impression que ce scénario, il est un petit peu trop lent. C'est-à-dire que 15 milliards retirés tous les mois, avec une fin en juin 2022, ça sera sans doute 30 milliards avec un arrêt au mois de mars. Donc on voit qu'il y a une accélération.
Voilà. C'est le maître mot, en fait. Hein. C'était le maître mot de ces derniers jours. Mais avec ce qui se passe, est-ce que cette accélération va toujours être à l'ordre du jour? On va en débattre, Emmanuel Lechypre, sur cette chute des marchés aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. C'est justifié par rapport à ce qu'on sait jusqu'à maintenant de ce nouveau variant? On sait juste qu'il
est très transmissible. Non, c'est surtout justifié par rapport à ce qu'on ne sait pas de ce nouveau variant.
C'est justement, les marchés détestent l'incertitude, c'est bien connu. Donc c'est ça la raison principale.
C'est comme toujours, c'est-à-dire que ça n'est pas un événement en soi qui provoque le décrochage des marchés, c'est l'écart entre des anticipations qui sont brutalement revues à cause de cet événement. Et c'est vrai que un des moteurs des marchés ces dernières semaines, c'était quand même cette sensation que la vaccination progressant dans les pays qui composent 80% du PIB mondial, on allait progressivement vers un retour à la normale et on s'était mis à davantage s'inquiéter des problématiques de pénurie d'approvisionnement, de main-d'œuvre. Et là, effectivement, le retour est brutal parce que ce qu'on voit, c'est que, évidemment, ce qui angoisse les marchés, c'est quand vous déroulez le scénario potentiellement noir de ce qui nous attend.
Le spectre de mars 2020.
Et c'est-à-dire que comme on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ce nouveau variant est contagieux et dans quelle mesure les vaccins sont efficaces contre ce nouveau variant. Et donc là, si on se remet à envisager des scénarios de fermeture des frontières, peut-être pas de reconfinement, mais de limitation, de restriction de circulation dans tout un tas de pays. Et donc, on voit bien que là, pour le coup, ça change le panorama des mois de 2022, sachant que quand même, il y avait des indicateurs de ralentissement de l'activité pour 2022 qui était déjà assez net. On voyait qu'il y avait donc moi c'est ça qui m'inquiète, c'est cette espèce d'angoisse quasi pavlovienne, hein, c'est parce qu'on l'a connu quand même plusieurs fois le scénario, où à chaque fois on s'est dit, première vague, on est tranquille, paf, il nous arrive la deuxième vague, la troisième, la quatrième, et là maintenant la cinquième.
Bon, la cinquième, elle a commencé avant le variant sud-africain, le nouveau.
Effectivement, elle a commencé avant, et là on se dit,
ça va être encore
après,
pire.
Après, et c'est là où il va falloir apprécier la situation qui est quand même radicalement différente de ce qui est, parce que l'économie n'est pas du tout la même qu'au moment du premier confinement, les difficultés ne sont pas du tout les mêmes, et donc on peut voir aussi dans cet événement sanitaire des conséquences économiques quelque part favorables presque entre guillemets par rapport aux contraintes qu'on avait ces derniers jours, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple toutes les contraintes liées
on aurait moins de pénurie, c'est ça,
pétrole, tension sur les
s'il y a un coup d'arrêt de l'économie, c'est sûr il y aura moins de demande pour tout ça,
ça c'est ponctuel. Qu'est-ce qui peut se passer sur le dollar aussi, c'est intéressant. Donc
Bah là, il remonte le dollar.
Il y a pas que, bah voilà, il y a pas que des effets négatifs.
Pardon, l'euro remonte, hein. L'euro remonte, qui avait tendance à s'affaiblir.
Mais c'est vrai que là,
c'est le dollar qui chute.
Là, pour le moment, c'est surtout quand même une modification du paysage de l'année qui vient, alors que les indicateurs de l'économie réelle sont encore très bons.
Ce spectre de mars 2020. C'est...
Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes. Hein. Déjà, on est plus habitué à gérer ce genre de situation. Puis le deuxième problème, effectivement, on n'est plus du tout dans la situation de mars 2020. Le ratio dette sur PIB, à chaque confinement, on ne va pas rajouter 10% de ratio dette sur PIB. Donc ça, c'est carrément exclu. On n'a plus les moyens de...
Pas de nouveau, quoi qu'il en coûte.
Ah non, là, on ne peut plus, parce que quand même, c'est toute
la... On est à la limite.
Effectivement, et les banquiers...
À chaque fois, on dit qu'on est à la limite, et puis finalement, on la dépasse, cette limite.
Mais en fait, à la fin, on va se dire que finalement, la Banque Centrale du Japon, elle est vertueuse. Si on continue sur ce rythme-là, ils ont plus
elle
de 240% de ratio
et elle a plus de 200% de dette.
Donc c'est un vrai sujet.
Mais c'est une dette qui est interne au Japon.
Oui, mais enfin, il faut quand même la payer.
À plus de 90%.
Même si elle est à taux quasi négatif, mais ça reste un poids mort. Et puis la Banque Centrale du Japon, la BOJ, c'est devenu un fonds d'investissement. Hein. C'est plus une banque centrale, elle achète des actions, absolument tout pour tenir le marché. Non, nous, on n'est pas encore dans cette situation. Mais néanmoins, on a quand même un souci aujourd'hui, c'est comment les banquiers centraux, avec ce qui se produit, si ce Covid, comme j'ai l'impression qu'il l'est, hein, extrêmement virulent, cette nouvelle souche, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, tous nos paramètres, toutes nos certitudes tombent. Et comme l'expliquait Emmanuel, le marché avait anticipé plein de bonnes choses. Donc, la moindre petite mauvaise nouvelle, placée sur un plateau de valorisation extrêmement élevé, la moindre petite mauvaise nouvelle fait basculer le marché. Or là, ce n'est pas une petite mauvaise nouvelle, c'est potentiellement quelque chose de beaucoup plus grave. Je pense qu'il faut le prendre très, très au sérieux. Et on voit, quand vous regardez ce matin, les écarts, les pertes sur les valeurs, vous voyez tous les secteurs, le secteur aérien,
l'aérien, le tourisme, tourisme, sauf les labos, quoi. Voilà.
Oui, il y a Eurofin,
Scientifique, Biomérieux, Sartorius.
Mais c'est pas illogique. Ce n'est pas illogique. Alors après, la vraie question, c'est est-ce que les banquiers centraux vont devoir modifier leur politique, puisque on sentait quand même que les banquiers centraux étaient l'arme au pied pour pouvoir commencer à
plutôt ne pas
à
faire
remonter.
Ce qu'ils commençaient à annoncer.
Oui, mais alors là,
qu'ils allaient faire.
Imaginez que on se retrouve avec de nouveau un confinement et puis des blocages, des goulots, mais cette fois-ci non plus à l'offre mais à la demande, c'est-à-dire que les gens sont confinés ou sortent moins, la mobilité se réduit. Comment la situation va être gérée par les banquiers centraux? Ils ne peuvent pas s'amuser à remonter les taux, continuer le tapering, donc ça va un peu contrecarrer complètement ce qui était entrevu par les banquiers centraux.
Emmanuel Le Chypre, on dit que les annonces des Pfizer, Moderna, là, vont être cruciales pour savoir si leurs vaccins sont efficaces, malgré tout ce que l'on dit sur ce nouveau variant. Mais la communication des banques centrales aussi va être cruciale.
Bah, alors, la communication des labos, oui. Sachant que la problématique de la vaccination insuffisante dans beaucoup de pays... Sachant que la France est quand même en pointe en termes de taux de vaccination, cette problématique elle reste intacte. Hein, c'est-à-dire que on se disait il y a des pays, regardez ce qui s'est passé en Allemagne, en Autriche, on nous dit ah bah oui si le virus galope aussi vite, c'est que la proportion de la population qui est vaccinée n'est pas suffisante. Ça, ça va au-delà de la problématique de l'efficacité du vaccin. Donc ça c'est une problématique réelle. Donc oui il faut s'attendre à ce que ce virus circule. Après ce qui est quand même préoccupant pour les banques centrales, c'est qu'on voit bien que de toute façon on avance dans cet étau qui est absolument terrible, c'est que pour le coup vous avez des banques centrales qui sont quand même prises en otage à la fois par les marchés et à la fois par les États. Et ça on se demandait comment est-ce qu'on va en sortir avec les États-Unis, la reprise et puis ce scénario qui était quand même le scénario mainstream qui consistait à dire maintenant qu'on a le vaccin globalement le pire est derrière nous et on va progressivement retrouver le monde d'avant, c'est ce scénario qui était branlé aujourd'hui. Donc moi je pense que ça remet particulièrement en cause le scénario de la Fed, ça remet pas tellement en cause le scénario de la BCE finalement qui elle nous avait quand même
annoncé rien spécial mais la Fed effectivement
et qui nous disait même et la Fed c'est quand même un sacré casse-tête.
Jusqu'à aujourd'hui on se disait bon ils vont relever leur taux deux ou trois fois l'année prochaine.
C'est quand même un sacré casse-tête. Et puis il y a quelque chose qu'on n'arrive pas, enfin qu'il faut regarder de près, c'est que quand vous fermez administrativement votre économie, on a vu ce que ça donnait, on a vu que c'était compliqué de repartir. Si vous commencez à enchaîner tous les six mois les phases d'ouverture, de fermeture, d'ouverture, de fermeture. Quand on voit toutes les perturbations...
Bon, là, c'était il y a plus d'un an, la dernière, mais bon.
Quand on voit toutes les... Parce que les perturbations qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas seulement j'ai pas produit pendant 3 mois, 4 mois, et je dois rattraper mes retards de production. C'est de la désorganisation. Donc, si il faut faire du stop and go en permanence, comme ça, sur les outils de production, sur la logistique, etc., etc., là, on risque vraiment de rentrer dans un vrai bordel permanent, quoi. Et pas
le
seulement dans des problématiques de rattrapage, de décalage, ouais, etc. Ouais, ouais. Et là, effectivement, il faudra regarder, alors c'est pas mon métier, mais il faudra vraiment regarder, entreprise par entreprise, lesquelles sont dépendantes, quels sont les circuits d'approvisionnement, etc. Mais tout ça, c'est facteur de coût supplémentaire.
Et ça va jouer, alors justement, l'investisseur que vous êtes, sur les valorisations dans les jours, les semaines qui viennent. Parce que là, aujourd'hui, on a quoi ? Une réaction épidermique, tout le monde dans le même sac, sauf certains labos, comme je le disais, mais 99% du marché chute. C'est après qu'on va voir justement qui peut mieux s'en tirer que d'autres.
Ah ben on va véritablement faire comme en mars-avril 2020. Hein, on va séparer celles qui sont bénéficiaires du Covid, c'est-à-dire les sociétés numériques, le commerce en ligne,
ça commence,
les HelloFresh.
Ça commence déjà d'ailleurs, ouais.
Et puis celles qui dépendent complètement de la mobilité.
Ubisoft fait partie des rares hausses du jour, Ubisoft.
C'est mobilité, pas mobilité. Hein, l'indice de mobilité de Google, tout le monde va de nouveau se refocaliser dessus. Mais c'est très compliqué parce que il faut bien se dire une chose, c'est que la croissance, qu'on le veuille ou non, dans n'importe quel pays, c'est la consommation aux 2/3. La consommation est liée beaucoup aussi à la réserve, à l'épargne, qui ne bouge pas, hein, qui reste mobilisée dans les comptes, et puis également à l'effet richesse. Aux États-Unis, l'effet richesse, qui est 650% du revenu annuel moyen d'un Américain, est à 95% sur le S&P 500. Si le S&P 500 s'effondre, c'est l'effet richesse qui disparaît. Or, aujourd'hui, les banquiers centraux sont très préoccupés par les actifs réels, c'est-à-dire l'immobilier et les actions, donc très difficile de remonter les taux d'intérêt. Très, très difficile de remonter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt réels négatifs sont à surveiller de près. Il faut que chaque fois que les taux d'intérêt réels négatifs, qu'on gagne sur le taux d'intérêt réel négatif, ce soit supérieur à ce que l'on peut perdre sur la croissance. Tant qu'on est dans cet équilibre, ça tiendra. Sinon, ça ne tiendra pas. Et là, on est quand même en taux réel négatif très très bas. Donc c'est compliqué parce que la Banque centrale doit tenir compte de ces valorisations d'actifs réels. Et tout le problème que l'on a, et on le voit, que ce soit des investisseurs, des conseillers en gestion de patrimoine qui ont beaucoup d'investissements sur des
SCPI. Qu'est-ce que vous avez entendu hier au sommet BFM Patrimoine ?
Tout à fait, ouais. Mais c'était très intéressant, ouais. Parce qu'on voyait la structure d'investissement des conseillers en gestion de patrimoine. C'est très compliqué leur métier, parce qu'ils sont obligés de travailler entre le financier, l'immobilier, les actifs réels, les crypto-monnaies, etc. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est est-ce que l'immobilier va profiter d'une hausse de l'inflation ou pas ? Quel est l'effet qui va être le plus fort ? La dévalorisation par l'actualisation des flux sur l'immobilier quand les taux montent suite à l'inflation, ça dévalorise les actifs réels ou favorisé par la hausse des loyers qui sont indexés sur l'inflation. Eh bien, tout va dépendre de l'évolution des taux d'intérêt réels. C'est ça qui est important. Donc, les banquiers centraux, pour faire remonter les taux longs, eh bien, ils ne sont pas prêts de les faire remonter parce que ça va être très, 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 très difficile.
Alors, ils sont piégés. Les banquiers centraux sont coincés.
Alors, ça, c'était le piège. Oui, mais ça, c'est le piège qu'on connaît depuis le milieu des années 80.
Ça remonte à si longtemps.
Ben oui. Ben oui, parce que c'est le piège dans lequel nous a enfermé Alan Greenspan. C'est-à-dire qu'en gros, le piège, il commence en 1987, quand, face au krach boursier, on inonde le marché de liquidité. On se dit, oh là là, faut absolument pas recommencer l'erreur de 1929. Donc, on abonde. Et là, vous voyez quoi ? Vous voyez que les liquidités qui ont été injectées dans l'économie vont gonfler la bulle suivante. Ah, on va l'effacer très vite, hein, le krach de 87 sur l'économie réelle. Il n'y a pas de souci, invisible. Et c'est là où vous rentrez dans cette logique où on se dit, bah, finalement, on a trouvé la solution quand il y a une bulle. Et les banquiers centraux, en fait, en réalité, ils acceptent, ils ont théorisé l'idée que finalement, le moins dommageable pour l'économie et la croissance à long terme, c'était de laisser gonfler ces bulles, de les laisser éclater, d'inonder le monde de liquidités pour atténuer l'effet de cet éclatement de bulle, et on repart comme ça. Sauf que quand vous injectez de la liquidité pour contrecarrer les effets de l'éclatement d'une bulle, vous créez les conditions de la bulle suivante. Et c'est comme ça que vous enchaînez depuis la bulle immobilière, la bulle obligataire du début des années 90, la bulle ensuite de la fin des années 90 sur les marchés émergents, puis la bulle Internet, puis la bulle immobilière, etc. Ça, c'est la fameuse logique de l'économie patrimoniale, hein, ou du capitalisme financier, appelez-le comme vous voulez, mais où c'est finalement les variations de Wall Street qui font les cycles économiques et non plus les variations.
Si on s'en rend pas compte dans un pays comme la France.
De Main Street. Non, ça on s'en rend moins compte. Mais je veux dire, c'est plus les. Honnêtement, aujourd'hui, c'est plus les salaires et l'emploi qui font les cycles économiques. C'est les variations des marchés financiers. Lisez le nouveau livre de Laurent Bérébi, c'est sur l'économie patrimoniale. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, les banques centrales, elles sont dans ce piège-là. Donc ce piège-là, il est ancien. On le connaît. C'est la fuite en avant, l'économie de bulle. Mais le double piège, c'est que maintenant, les banques centrales, elles sont coincées. Elles sont plus non seulement dépendantes des marchés, mais aussi des États maintenant. Et vous savez très bien que, vu le niveau d'endettement des États, qu'est-ce qu'on fait ? Donc déjà, on se disait, la hausse des taux longs, c'est ce qui peut arriver de pire à l'économie mondiale. Si vous avez, en même temps, la double peine, c'est-à-dire hausse des taux longs pour les dettes publiques et hausse des taux longs pour les marchés, enfin, vous voyez, moi je ne sais pas comment on sort de tout ça.
Alors peut-être juste...
Oui, et je vous demanderai comment on investit dans ces conditions. Comment le professionnel de l'épargne que vous êtes, Daniel Gerino, investit.
Juste parce que vous avez parlé, c'était très, très important, avec ce changement de perspective sanitaire, la réallocation des portefeuilles. Mais il y a une double réallocation. C'est que si on revient dans les contraintes qu'on a connues, il y a une réallocation aussi sur la structure de consommation des ménages. Hein, c'est-à-dire que vous avez vu que quand on est sorti des confinements, tout le monde a rebasculé massivement vers la consommation de services.
Tout en gardant des réflexes quand même. Hein,
oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est remis... Regardez l'explosion pendant le confinement de tous les biens matériels, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'aménagement de la maison, par exemple, puisqu'on pouvait plus sortir, plus voyager, etc. Oui. Là, on a retrouvé un basculement vers les services massivement. Mmh. Et là, qu'est-ce qui risque de se passer ? Ça va être une modification de la structure de la consommation et qui a un impact, évidemment, sur ce qu'on vend, mais sur les prix aussi, puisque le panier que vous achetez se modifie et donc l'inflation que vous subissez n'est plus la même non plus.
Mmh. Daniel Gerino.
Alors, déjà, au niveau géographique, rien sur les émergents. Mmh. Beaucoup trop dangereux parce qu'il y a le cycle.
Vous mettez la Chine dedans.
On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais il se passe quand même pas mal de choses.
Plus dollars.
Et le cycle de
hausse matières premières plus hausse dollars. Oui, oulala, attention.
C'est extrêmement mauvais pour les émergents. D'ailleurs, vous regardez les marchés qui n'ont pas du tout progressé. C'est le Bovespa, c'est le Misex en Russie. Donc, à éviter. Se recentrer sur des secteurs liés à la technologie, à la cybersécurité, tout ce qui va être lié au commerce numérique et aux activités numériques. Bon, le luxe, il faut le mettre de côté, même s'il a bien baissé, mais il faut attendre, c'est peut-être pas terminé, parce qu'on avait quand même des PE qui étaient stratosphériques.
Mais il repartira de l'avant.
D'attendre la baisse et puis de racheter après.
C'est un peu tôt encore. Ouais. Moi, je pense
il est reparti assez vite, le luxe, quand même, en 2020.
Oui, mais alors, effectivement, il est reparti très très vite parce que c'était le premier coup de semonce. Vous avez un deuxième coup de semonce, et rappelez-vous qu'on a eu une période qui était quand même très très difficile, et lorsque la mobilité est repartie, évidemment, tout s'est relancé.
Donc la technologie, cybersécurité...
tout ce qui est lié à la transition, transition énergétique.
Ça change pas.
Ça reste toujours des sociétés intéressantes. Après, les utilities, non, parce que ce sont des proxys.
Les fournisseurs d'énergie, les télécoms, gaz, électricité.
Non. Après des boîtes comme Air Liquide.
Bah, télécom, c'est un peu défensif, non ?
Oui,
non.
Mais non.
Alors, dividendes
aux États-Unis, oui. En Europe, non.
D'accord.
Pourquoi ? Parce qu'on casse quand même les prix en Europe. Un abonnement Internet en France, c'est 20 euros.
C'est ça qui plombe les cours ?
Ah bah, oui, alors on demande énormément d'investissement et en face, il y a une concurrence qui est complètement exacerbée. Donc on est dans des situations de ciseaux. Hein. Les opérateurs n'ont pas de bons résultats. Mais quand vous regardez le secteur financier, moi je sors, hein, c'est terminé. Je pense qu'on n'aura pas de quantification de la courbe des taux. Quand vous voyez Société Générale qui a fait 60%, plus de 60% de hausse depuis le début de l'année, c'est un rattrapage. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre ? C'est des secteurs qui vont être extrêmement concurrencés par des plateformes.
Donc coup d'arrêt au rattrapage là.
Là on a quand même déjà bien nettoyé le terrain. Alors après, les États-Unis restent le marché dominant, qu'on le le veuille ou non. La Chine, non, parce que les pays asiatiques, on le voit, le Hang Seng est à moins 10% depuis le début de l'année. On n'est quand même pas sur une dynamique positive en matière de croissance en Chine. Il y a un nouveau paradigme, on en parle souvent ici, mais c'est plus la Chine d'hier. Le gouvernement a décidé de reprendre la main, le politique prend la main sur l'économique. Donc non, on n'est pas dans cette logique.
Emmanuel Le Chypre, oui, il reste 30 secondes.
Oui, sauf qu'il reprend la main pour des raisons économiques. Et moi, ce qui me fascine quand même, c'est la façon dont les Chinois tirent les leçons de toutes les erreurs qui ont été commises partout avant. C'est-à-dire qu'en gros, les Chinois, justement, entre ce qu'ils font sur l'immobilier, ce qu'ils font sur le crédit, ce qu'ils font...
Ils ont très vite arrêté l'hémorragie.
Justement, ils veulent éviter de rentrer dans la logique de l'économie de bulle. Et pour le coup, c'est pour ça que je trouve que souvent on a une lecture en France qui est trop politique par rapport à oui, systématiquement, c'est l'État qui veut reprendre la main. Là, c'est pour des raisons où on veut éviter justement un carnage à la pays occidentale sur ce plan-là.
Le mot stratégie vient du chinois, faut pas l'oublier.
Ah, oui, c'est vrai.
Très belle conclusion. Merci beaucoup à vous deux, Daniel Gérineau, Carlton Sélection et Emmanuel Le Chypre, BFM Business. On fait une très courte pause et on se retrouve dès 11h30, ce sera la dernière ligne droite de cette émission BFM Patrimoine, pour faire un nouveau point sur la tendance avec Jean-Louis Cussat qui nous attend depuis Perceval Finance. A tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
Un peu plus de 11h30 sur BFM Business, la dernière ligne droite de cette émission BFM Patrimoine avec des marchés qui plongent ce matin sur l'irruption, pourrait-on dire, hein, de ce nouveau variant sud-africain du Covid-19 qui concerne en fait toute l'Afrique australe et qui fait que l'Europe met les barrières, voilà. Moins 3,24% sur le CAC, sous les 7000 points, 6846. Jean-Louis Cussat nous rejoint de nouveau depuis Perceval Finance. On relativise un petit peu la baisse, mais un petit peu seulement, Jean-Louis. Hein. Ça fait mal quand même ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, bien évidemment. Mais regardez, en une heure de temps, le CAC 40 a regagné 0,7%. C'est pas mal. Bon, on est revenu sur 6850. Moi, c'est le niveau, comme j'ai, la zone dont je parlais, c'est 6750, 850. Donc, 750, j'achète, 850, là, je commence à revendre et même un peu plus. Bon, c'est tout. Après, c'est pas le moment, si vous voulez. En fait, là, on est en train de gérer, si vous voulez, ce qu'on a fait il y a ces derniers jours. Et moi-même, ces dernières semaines, parce que c'était un peu pénible, ces derniers temps, il se passait pas grand-chose. J'avais monté des synthétiques, toute la journée j'achetais, mais on tricotait sur des écarts assez faibles, c'était assez pénible. C'est vrai que là, ça fait plaisir, ça bouge. Donc les bancaires aussi, là, sont remontés en une heure de temps. Vincent, ce sont les bancaires qui sont les plus fortes hausses. Il y a Unibail qui a repris 2%, était aussi suspendu, hein, comme Airbus à l'ouverture, elle arrivait pas à côté. Bon, je voudrais revenir deux secondes sur LVMH. Vous voyez, LVMH, quand elle a plongé, ça a duré quelques secondes, hein, mais c'est du délire. Mais ça suffit pour faire, si vous voulez, une vision, pour créer une vision éphémère de panique sur l'indice, parce que en perdant 12 et en pesant 12 de l'indice CAC 40, LVMH même pèse un 12 et quelques, il y a 12,4, je crois. Ça représente une baisse de l'indice CAC 40 de 1,4%. Donc, si vous voulez, dès que le marché a ouvert, ça a envoyé un message extrêmement violent, méchant, mais qui restait très, très ponctuel. Ça a duré quelques secondes, mais ça a suffi pour créer un peu ce sentiment de panique. Et depuis, on peut pas dire que les choses se sont vraiment, évidemment, dégradées, puisque on a fait que des niveaux au-dessus de cette ouverture incroyable, quelque part, à cause de cela, hein. Donc, il faut relativiser les interprétations comme ça de mouvements qui durent quelques secondes. Bon, voilà, je persiste les signes. On n'est pas dans une situation comme en 2020. Je pense toujours que ce marché peut tenir. Si on revient à 6750, moi, je suis placé au rachat. Donc ça, je n'hésiterai pas. J'essaye de vendre les puts que j'avais achetés, mais... En forte volatilité. À un moment donné, si vous voulez, quand les puts sont très dans la monnaie, comme j'avais acheté des 7250, je l'avais signalé, c'est pour ça que j'en reparle. Bon, ben là, je considère que ce sont comme des futurs, donc je vais plutôt acheter du futur en face. Il n'y a pas grand chose, si vous voulez, je pense, à dire de plus. Je pense que les gérants vont être dans la recherche d'opportunités. Je pense pas pour l'instant qu'ils vont... ils n'ont aucune raison de paniquer, de toute façon. Ils étaient super méfiants déjà. Donc, l'état d'esprit, c'est... Bon, s'il y a quand même des affaires, on va y aller, on va essayer de trouver des choses intéressantes à faire. Et voilà, je pense pas que le marché parte en vrille comme il l'avait fait précédemment, parce que la construction fait qu'ils seront plutôt acheteurs que vendeurs jusqu'à même 6006. Ça ne déclencherait pas, si vous voulez, de panique. Donc voilà, moi je trouve que 6750, c'est un bon niveau pour faire un peu d'emplette. Faire du trading aussi, hein. C'est-à-dire on n'est pas là pour forcément le garder 6 mois, mais surtout quand il y a des écarts violents. Mais voilà, c'est plutôt acheteur sur ce niveau de 6750.
Bon, on sent bien que vous en avez vu d'autres, hein, Jean-Louis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à deux reprises aujourd'hui, Jean-Louis Cussac, chez Perceval Finance.
BFM Business, BFM Patrimoine, les trophées du patrimoine.
Et on ouvre une page spéciale Trophée du patrimoine à présent dans BFM Patrimoine. Plein feu sur cette 22e édition de ces trophées décernés dans le cadre du sommet BFM Patrimoine que vous avez pu suivre en direct tout au long de la journée d'hier sur notre antenne. Chaque année, les trophées de la gestion de patrimoine récompensent les compétences juridiques, financières des professionnels du conseil patrimonial exerçant ce métier depuis 3 ans, de jeunes professionnels ou des diplômés en gestion de patrimoine de moins de 26 ans. Sur ce plateau, Maître Jérôme Barré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat chez Franklin. On ne dit pas Franklin, on dit Franklin,
non,
c'est bien ça ?
C'était Franklin.
Ah d'accord.
C'est chez Barré Associé aujourd'hui.
Barré Associé.
Oui.
Félicitations.
Merci.
Et un des lauréats qui s'appelle Andy Busaglia.
Bonjour.
Bonjour Andy, merci d'être avec nous. Trophée du patrimoine. Lauréat du Trophée du Patrimoine 2021. Maître Barré, à vous l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces trophées ?
Alors, les trophées, je le rappelle, c'était tout à fait à l'origine. Le but, c'était de créer, développer le multiprofessionnalisme, c'est-à-dire rassembler ou réconcilier, s'ils étaient fâchés, le monde de la finance et le monde juridique et fiscal. Et à l'origine, il y a 22 ans, il y avait une profession qui émergeait, c'était les conseillers en gestion de patrimoine. Donc ce trophée a été fait sur mesure pour cette typologie de conseil. Alors, il est apparu que, évidemment, on ne pouvait pas oublier les membres des réseaux, réseaux bancaires, réseaux assurances. On n'oubliait pas non plus les indépendants. Dans les indépendants, nous avons les conseillers en gestion de patrimoine, mais nous avons également les notaires, nous avons les avocats, nous avons eu des notaires d'ailleurs dans le passé qui ont gagné. À l'époque, on faisait un prix plus spécifiquement sur les aspects financiers. C'est bien un
vous
notaire qui a
début
gagné.
Vous le suivez depuis le début?
Je le suis pas tout à fait depuis le début.
Cette compétition, d'accord.
Après, je le suis depuis le début, mais je n'ai été bombardé, si je puis dire, président, qu'un peu plus tard. Et donc, cette année, comme toujours, deux parties dans l'épreuve. Une partie qu'on peut jouer en équipe, qui est un QCM.
Voilà, avec... quels étaient les cas proposés aux candidats ?
Alors, dans le QCM, vous avez d'abord une liste de questions extrêmement précises, fines. Vous devez répondre oui, oui, non, avec des aspects juridiques et fiscaux et des aspects financiers. Mmh. Là, c'est tout en vrac. C'est tout en vrac et jusqu'à maintenant, personne n'a jamais réussi à répondre, soit en juridique et fiscal, soit en financier à 100%, jamais. Mmh. Un tiers de l'épreuve. Une fois qu'on est sélectionné parmi les premiers, trois dans chaque catégorie, vous passez l'épreuve phare qui est le grand oral, qui est le plus impressionnant, puisqu'on vous demande de préparer pendant 10 minutes.
Déjà, on est face à vous, donc c'est impressionnant.
Monseigneur, vous pensez que je ne suis pas un terrible, au contraire. Non, justement, nous sommes très bienveillants. Nous sommes un ensemble de clients, donc des avocats, des notaires, des conseillers en gestion de patrimoine, des gens de tous ordres, dans les métiers qui nous concernent, du patrimoine, et qui sont chargés d'écouter la bonne parole que va nous répéter tout à l'heure Andy. Et le thème était l'histoire de Monsieur Pluton. Monsieur Pluton est un chef d'entreprise qui a pris un peu d'âge et qui voudrait vendre la totalité des titres de son entreprise. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit utiliser le régime de départ à la retraite ? Est-ce qu'il peut utiliser des mécanismes d'apport ? Ensuite, il se dit qu'il pourrait aller en Italie, parce qu'en Italie, il pense aussi à la transmission. En Italie, on a des droits de succession ou de donation qui sont de 4%, quand bien même ses enfants seraient en France. Puis il y a des aspects pratiques. Dans les aspects pratiques, il y a une résidence principale. Ses enfants ont grandi, la résidence est trop grande, s'il part à l'étranger, que se passe-t-il ? Voilà le sujet qui était développé. qui paraît très simple, mais il y a aussi des questions financières, sur l'inflation, sur, vous en parliez tout à l'heure, sur l'immobilier en Chine, un certain nombre de choses où on... où les candidats ont finalement très peu de temps. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir, dans ce monde très organisé que nous leur avons présenté, mais dans lequel eux sont probablement en stress, de voir comment ils réagissent, et on, évidemment avec bienveillance, on leur pense un certain nombre de questions.
Andy Bussaglia, donc lauréat de ce trophée du patrimoine 2021. Tout d'abord, votre réaction ?
Bien, écoutez,
vous remerciez tout le monde.
J'ai été très honoré, vraiment. C'est un honneur pour moi d'avoir remporté ce trophée de la gestion de patrimoine. Et un grand merci aux organisateurs, aux sponsors.
Alors, pour ceux qui nous regardent à la télévision, vous pouvez peut-être nous montrer ici, un petit peu plus en détail. Voilà. Il y a une inscription là, faut l'orienter vers la caméra. Voilà, encore un petit peu plus haut. Voilà, très bien.
Okay. Et voilà. un vrai plaisir. Un grand merci à tous.
Mm-hmm. Alors, dites-moi comment ça s'est passé pour vous cette épreuve.
Très impressionnant parce que. Il est vrai qu'on a l'habitude dans nos métiers d'être en face des clients, mais là c'est vrai que c'est un petit peu particulier puisqu'on a en face de nous 15 clients en même temps, finalement tout le jury. On a un cas pratique où finalement on a seulement 10 minutes pour préparer, en fait on a juste le temps de le lire et on va dans la foulée faire la restitution.
Donc, le sujet, vous nous l'avez dit, hein, c'est ce chef d'entreprise
exactement, qui regroupe tous les sujets fiscaux, financiers, de l'international, de la macroéconomie, des marchés financiers. Donc il y avait vraiment un peu de tout. Et il faut faire la synthèse. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de temps de préparation. C'est vrai que dans nos métiers, habituellement, quand on rencontre un client, on essaye de bien comprendre sa situation, ses objectifs. Et puis derrière, on va travailler, on prépare un audit patrimonial. Et puis ensuite, on passe à la restitution. Mais après
qu'est-ce qui vous a permis de remporter ce prix, d'après vous? Qu'est-ce qui a fait la différence?
La récidive.
C'est peut-être pas à vous de le dire, mais bon.
C'est la récidive.
C'est la récidive.
Ah bon?
Je suis un multi-récidiviste.
Oh là là.
J'avais eu l'honneur d'être déjà deux fois nominé.
D'accord.
Et cette année, c'est la première fois que je remporte le trophée.
Ça a été la bonne.
Ouais. C'est le fait de récidiver, de persister qui m'a peut-être...
Donc on peut se présenter plusieurs fois, mais est-ce qu'on peut gagner plusieurs fois? Oui.
On peut gagner, interdit. Je crois que c'est deux fois.
D'accord.
Mais pas plus de deux, et il faut...
C'est comme les mandats présidentiels. Hein, voilà.
Et on ne peut pas faire le championnat suivant. C'est-à-dire que...
Il faut laisser passer une année. Vous allez vous reposer l'année prochaine.
Je me reposerai et je ferai certainement partie du jury du coup.
Qu'est-ce que vous a... Ah oui, qu'est-ce que vous a... C'est automatique, ça?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous diriez, cette compétition que vous avez fait plusieurs fois et que vous venez de remporter?
Écoutez...
Quelles armes ça vous a donné?
Alors, je pense que, tout d'abord, c'est un bon moyen de tester ses connaissances, voir si on est toujours à niveau. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très exigeant, avec multi-domaines, avec le juridique, le fiscal, le financier, la macroéconomie, le marché de l'épargne, vraiment tous les domaines. Et là, c'est vrai que c'est une épreuve multidisciplinaire qui permet vraiment de reprendre tous ces éléments-là. Donc ça permet de faire un point sur ses connaissances. Et puis, pour moi, je pense que, à titre personnel, vous savez, on est dans des métiers assez confidentiels, finalement. Même si ça fait plus de 12 ans que je fais ce métier, je reste encore jeune dans la profession et par conséquent, je suis encore en phase de développement de clientèle. Et donc, je pense que ça va m'apporter une certaine visibilité.
Et oui, c'est important pour votre image, pour votre business, il faut le dire.
Vous savez ce qu'on dit, il y a toujours le savoir-faire et le faire savoir. Et donc là, c'est vrai que c'est un excellent moyen.
Donc, quand on va arriver dans votre bureau, on verra le trophée. Très bien en évidence.
Il sera là.
Ce qu'on a remarqué au fil du temps...
Il servira pas seulement de presse-papier.
Pas seulement.
Il pourrait. Hein.
Ce qu'on a remarqué au fil du temps, c'est que non seulement pour ceux qui sont nominés et qui sont déçus de ne pas être les premiers, mais c'est un concours, c'est normal qu'il y ait des gagnants, mais ça a affecté leur carrière d'une façon ou d'une autre. Alors, d'une façon ou d'une autre, c'est toujours positif. Je me souviens d'un membre du jury qui était dans une banque de réseau qui avait dit « Mais moi, je suis très content de faire partie du réseau, de ma banque, et j'en suis très fier, mais je suis pas très convaincu qu'il faille que mes collaborateurs viennent parce que je vais les perdre. » Il y a cet aspect de challenge, et cet aspect de challenge, il est très intéressant parce que ça marque une carrière. Alors, les indépendants se font connaître, et on peut aussi faire une très belle carrière en restant dans sa maison. Certains l'ont fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on y reconnaît une qualité et que cette qualité, elle bénéficie d'abord et avant tout aux bénéficiaires, tant aux nominés, évidemment les lauréats, c'est encore un cran un peu au-dessus.
Bah écoutez, merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette 22e édition des Trophées du Patrimoine. Maître Jérôme Barré, président du jury, et Andy Bussaglia, Trophée du Patrimoine 2021.
Merci pour votre accueil, au revoir.
Merci. Avant de retrouver notre séquence suivante, un point sur les marchés, bien entendu, ça s'impose, hein, vu la situation actuelle, avec un CAC 40 qui abandonne à présent 3,59%, le CAC 40 à 6821. Alors, bien entendu, on passe largement sous le cap des 7000 points. La raison, c'est ce nouveau variant en provenance d'Afrique australe qui fait que l'Europe, voilà, met les barrières. Hein. Certains pays européens n'acceptent plus d'ailleurs les voyageurs en provenance de cette région du monde. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Allemagne. L'OMS réunit ses meilleurs experts aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne dans le détail du CAC 40 ? Ça donne pratiquement tous les secteurs qui plongent sauf les labos. On a l'aérien avec Airbus, plus forte baisse du CAC 40, moins 9,5%. Safran, les réacteurs, moins 9%. Également les centres commerciaux, Unibail-Rodamco, moins 8,2%. On a même le BTP, Vinci, mais c'est plutôt peut-être les concessions, puisque ça touche l'aéroportuaire, moins 6,5%. Quand on va du côté du SBF 120, on voit que Air France, KLM, chute de plus de 9%. On a la restauration collective, moins 9% pour Elior Group. Et puis à l'autre extrémité du classement, on voit qu'Eurofin Scientifique gagne 6,5%. Dassault Systèmes est étale. Le numérique aussi fait partie, entre guillemets, des gagnants du jour, tout comme les labos. Qu'est-ce que l'on voit d'autre ? On voit que l'euro se reprend, puisque c'est le dollar qui chute. Aujourd'hui, on est à 1,1277. On a le pétrole qui chute, puisqu'on s'inquiète sur un impact sur la croissance de ce nouveau variant. Cela diminuerait la demande en énergie. On a un baril de Brent qui cède beaucoup de terrain, qui passe sous les 80 dollars à 79,07. Et puis, le vol vers la qualité, la flight to quality qui avantage l'obligataire avec un OAT qui est étal, OAT 10 ans qui est étal à plus 0,06%.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour ces réponses aux questions, on retrouve Sarah Thirion, stratégiste action chez Tipeee ICAP, et François Meunier, directeur de la rédaction d'Investir. Merci de nous avoir rejoints tous les deux. François, on commence avec cette question de Jean-Pierre. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, les commandes sont impressionnantes, mais Airbus ne monte plus en bourse. Pourquoi ? Ça, c'était avant la journée d'aujourd'hui, avant, bien entendu.
Voilà.
Bon, qu'est-ce qui bloquait Airbus avant ce qui se passe aujourd'hui ?
Bah déjà, on a quand même des formidables commandes qui ont été prises, notamment au dernier salon de Dubaï. Hein. Ils ont réussi à avoir 408 commandes, dont une grande partie en option, hein, 269. Et donc, on le voit que la demande, elle est là. On est dans un secteur qui est, qui se partage entre Boeing et Airbus. Donc, les investisseurs ont quand même de la visibilité sur la part du marché, le gâteau qu'ils peuvent se partager dans le domaine aérien. On a des marges qui sont solides. Hein. Au premier semestre 2021, on a eu 11% de marge opérationnelle. C'est des marges qui sont supérieures à ce qu'on avait avant la crise, alors qu'il y avait encore 20 à 25% de chiffre d'affaires en moins. Donc on a une société qui a bien réduit ses coûts, qui est rentable et qui redémarre. Mais pour que ça aille beaucoup plus haut, et c'est pour ça que le titre plafonnait et là se met à baisser fortement, c'est qu'on manque de visibilité sur cette histoire de coronavirus. Et ce coronavirus, il faut voir que là, les acheteurs d'avions, ce sont quasiment des fonds d'investissement. Ce sont des fonds d'investissement.
Mais ils se projetaient sur quoi ? Sur 2024, 2025 ?
Oui, on se projette sur 2024.
Quand on achète un avion de ligne, bon, c'est pas une dépense courante, fréquente.
On se projette.
On est livré quoi ? 2-3 ans plus tard ?
C'est ça. Ouais. Mais une partie du sujet, c'est que vous avez des compagnies aériennes qui sont en grande difficulté financière, par exemple Air France. Donc on voit que le secteur, il n'est pas tout à fait assaini, même si les avionneurs, en fait, les grands gagnants, c'est bien sûr c'est les constructeurs d'avions comme Airbus, mais toute la filière est encore mal en point. Et là, on peut avoir encore quelques tensions chez des compagnies aériennes qui vont risquer de prendre le bouillon quand on sait que...
Vous dites attention à Airbus, là, encore plus avec ce qui se passe actuellement.
Airbus, on peut rester à l'achat. Il n'y a pas de danger sur le modèle d'Airbus. Nous, on est plutôt acheteur d'Airbus.
Et vous le restez là?
On le reste pour l'instant. Mais les compagnies aériennes qui auront besoin de faire des augmentations de capital pour pouvoir tenir, comme Air France, ça va être un peu plus compliqué. Et il y aura beaucoup de compagnies aériennes. Alors après, là, on est dans le cœur de l'action. Donc peut-être qu'on sera rassuré ce week-end, etc. Donc il ne faut pas non plus surjouer l'événement. Mais on peut se poser des questions quand même sur l'avenir du secteur aérien sur longue période, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont en grande souffrance.
Sarah Thierry, on va parler d'une mid-cap Trigano, puisque Martin a une question pour vous. La baisse de Trigano est-elle justifiée?
Je ne trouve pas tellement. Alors, on va revenir
sur... Il faut dire dans quelle mesure ça baisse déjà, ouais.
En fait, déjà aujourd'hui, ça ne baisse pas beaucoup, en tout cas moins que le marché. Mais en fait, elle a surtout baissé cette semaine sur la publication de ses résultats annuels. Les résultats en tant que tels, 2020-21, parce que c'est un groupe qui fonctionne en exercice décalé, des très bonnes factures. Un chiffre d'affaires annuel qui avait progressé de quasiment 32% en like-for-like, en organique. Une marge opérationnelle qui a dépassé les 12%, et c'était vraiment une marge opérationnelle record pour le groupe. Et le groupe a même fini l'exercice avec 350 millions d'euros de trésorerie nette, ce qui lui laisse les coups des franges pour continuer de faire des acquisitions dans son secteur et donc de gagner toujours en taille critique et de déporter sa marge. Le problème, c'est que évidemment, les problématiques de supply chain et notamment sur les châssis viennent pénaliser la production. Donc la demande est toujours extrêmement soutenue. Le problème, c'est que cette demande sature en fait les capacités de production du groupe et donc ils ont communiqué sur le fait qu'ils étaient empêchés sur 5000 véhicules qu'ils étaient supposés livré au premier semestre. Donc on a un momentum top line qui va être un peu moins bon au premier semestre. En revanche, on a une demande qui est toujours très très bien orientée et une valorisation qui est extrêmement faible. Sur la base de nos estimations, je crois qu'on est à 7 fois levé sur EBIT 2022, très en deçà des multiples historiques. Donc nous restons à l'achat sur Trigano, qui peut être une très bonne valeur pour jouer Covid et le fait que les gens veuillent se mettre dans des bulles sanitaires pour continuer de voyager. Donc 210 euros d'objectif de cours pour nous sur Trigano et on reste positif.
François Meunier, rapidement sur Trigano, vous êtes...
Oui, nous on a l'achat aussi sur Trigano, aussi. Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de sujet là sur la qualité du produit, simplement ils ont un problème de pénurie de composants comme beaucoup d'acteurs, et donc ça, on pense que ce sera passager.
François Meunier, on reste avec vous avec cette question de d'Aline. Pourquoi Neoen réalise une si mauvaise année boursière? On peut déjà...
Neoen, c'est un producteur d'énergie renouvelable qui a un handicap. Peut-être
pas confondre avec Oneo. Oeno.
Voilà, c'est Oeno.
Je sais jamais.
Ce sont des bouchons.
Là, on est dans le vrai. Là, on est dans la production d'énergie verte, renouvelable.
Faire de l'énergie avec des bouchons.
Et le point faible de Neoen, c'est sa dette. Ils ont beaucoup de dettes et les investisseurs se disaient, on est dans un contexte inflationniste avec des risques de hausse de taux et donc ça risque de rendre plus cher le niveau de refinancement de cette dette. Après, dans le contexte actuel, Neoen, c'est pour ceux qui veulent s'intéresser en disant bah, tiens, on est sur un titre qui a déjà perdu une trentaine de pourcents.
Ah oui.
La vraie qualité de Neoen, c'est qu'il n'est pas du tout dépendant de la conjoncture économique et notamment la crise sanitaire, puisqu'on est sur des contrats extrêmement longs. On a une visibilité qui est très très forte sur la croissance. Pour 2022, 2023, 2024, puisqu'il y a une montée en charge avec des nouvelles installations. Donc on est vraiment dans un contexte où si jamais il y avait un ralentissement économique, la croissance de Neoen ne serait pas du tout impactée. Donc c'est un titre qui est, entre guillemets, qui peut évoluer contre le marché si jamais le marché baissait fortement.
Sarah, une question de Louise pour vous. Et d'ailleurs, ces questions, vous pouvez les poser sur bfmpatrimoine@bfmbusiness.com. Louise qui vous demande, le groupe SEB n'a pas connu un parcours incroyable cette année. Est-ce une piste d'investissement pour vous?
Il a raison, ça n'a pas fait un parcours incroyable, ça n'a rien fait contre un marché qui a été très bien orienté, plus 26-27% à hier soir, évidemment,
voilà,
un peu moins
préciser,
ce matin.
Hein.
Voilà, à hier soir. Et moi, je ne trouve pas que ce soit vraiment justifié, compte tenu de la résilience en fait, du groupe, y compris dans une année Covid, compte tenu de ses réalisations à date, compte tenu du fait que c'est quand même un groupe qui a traversé absolument toutes les crises, y compris donc cette crise sanitaire, qui a historiquement, hors Covid, toujours généré mieux que le PIB mondial, mais même d'ailleurs en période Covid aussi, qui parvient en fait à préserver, à faire progresser son résultat opérationnel sur activité tous les ans, en dépit du fait que le groupe soit en fait très exposé de par son statut d'industriel mondial, à la fois à divers effets devises et aux effets matières premières. Pourquoi ? Parce que le groupe a une agilité extraordinaire sur sa structure de coûts et notamment les variables qui représentent 70% du total, et que c'est un groupe qui a du pricing power. Je trouve que ce n'est pas justifié puisque c'est une vraie société innovante. Et enfin, je rappelle que c'est un extraordinaire générateur de free cash flow. Donc, c'est une société qui peut matérialiser des opérations de croissance externe et qui est très à l'écoute des disruptions de son marché. Donc, moi, je suis vraiment assez déçue du parcours de SEB cette année et je trouve que ce parcours n'est pas justifié. Donc, on est positif sur le dossier avec 187 euros d'objectif de cours. Je rappelle aussi que SEB est un excellent play pour jouer le home cooking si on reconfirme.
Mais oui, j'allais vous le dire.
Voilà.
Si on rentre tous chez nous.
On sera très content d'être très bien équipé chez nous avec de l'électroménager, du petit électroménager de chez SEB. Donc, 187 euros d'objectif de cours et un achat chez nous.
Très bien. François Monnier, une question de Mélissa. Elle est très simple, cette question. Quelle est votre valeur préférée du moment?
Bah, je dirais
bien choisir une.
Bah, Biomérieux, donc on est dans la santé. Ouais. Biomérieux, c'est le
grand,
numéro
grand gagnant de ce jour d'ailleurs.
Un des grands gagnants, oui, avec Eurofin, Sartorius Tedim, Biotech. Donc Biomérieux, c'est le numéro 6 mondial des diagnostics in vitro et c'est le numéro 1 dans la maladie infectieuse. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. L'activité Covid, c'est représenté à peu près 30% de ses revenus en 2020. Et le titre a fait une mauvaise année parce que tout le monde s'est dit, ben voilà, c'est une année exceptionnelle 2020. Il risque d'avoir un trou dans la croissance pour 2022-2023 avec une reprise. Parce qu'on est quand même sur une entreprise qui parvient à se développer, mais qui a eu vraiment un surplus d'activité l'an dernier. Sauf que le titre, il vaut 30% de moins que ce qu'on avait pu observer au plus haut de 2020. Donc, on a sur un titre vraiment qui est sanctionné. Et l'épidémie de Covid n'est pas du tout terminée. On en reparle encore ce matin. Et donc, je pense que c'est intéressant de rentrer sur ce titre après le trou d'air qu'il a connu par rapport à ses plus hauts de 2020.
Allez, une petite dernière pour vous, Sarah Thirion. Allez, en 1 minute 15, vous relevez le défi. Question de Nassim, il n'a plus resté qu'une minute, une fois que j'aurai dit la question. Vous avez parlé de Robertet, vous aviez parlé il y a quelques années, est-ce toujours une valeur à détenir?
Absolument. Absolument, c'est une valeur chère, mais c'est une valeur de fonds de portefeuille
qui évolue. On peut rappeler ce que fait Robertet.
Tout à fait, qui évolue sur un secteur très particulier, qui est celui des ingrédients naturels. En fait, Robertet est un leader mondial de l'approvisionnement et de la transformation des extraits végétaux, des matières premières végétales en extraits naturels. Or, on le sait, le monde veut consommer de plus en plus sain et des produits naturels. Et il y a des réglementations de plus en plus strictes sur, évidemment, tous les produits de synthèse. Donc, Robertet a une force absolue, c'est le sourcing. Et ça, c'est véritablement la barrière à l'entrée. C'est la capacité du groupe à s'approvisionner et à avoir des contrats de long terme sur les matières premières naturelles. Et donc, il évolue pour adresser ce marché à la fois sur la cosmétique, la parfumerie, l'agroalimentaire, la pharmacie, avec des ressources de matières premières naturelles, et ce marché est en croissance de 7, 8, 10% par an. En plus, c'est un secteur qui est hyper spéculatif, donc on reste à la chasse sur Robertet.
Et on retient Robertet. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à toutes nos questions. Sarah Thirion, stratégiste action chez Tipeee iCap, et François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Voilà, c'est la fin de cette émission. BFM Patrimoine, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un très court instant, vous retrouvez 60 minutes business, présenté aujourd'hui par Stéphane Pedrazier, et nous, en tout cas l'émission BFM Patrimoine revient dès lundi à partir de 10h. Très bonne fin de semaine, très bon week-end à toutes et à tous.